Donc je pense que bon, si vous êtes comme moi abreuvé d'informations de tous azimuts, il n'est pas impossible que vous ayez le sentiment que ces derniers mois et ces dernières années plus largement, les crises ne cessent de s'accumuler. On a eu d'abord une séquence climat assez largement diffusée autour des années 2020. Puis la crise sanitaire bah, début 2020 jusque 2022. On est rattrapé ces derniers mois par des crises géopolitiques et des crises sociales et démocratiques qui commencent à poindre avec l'approche des élections européennes et des élections américaines en fin d'année. Et donc on a cette petite musique, en tout cas moi je l'ai, je sais pas pour vous, mais le sournoise qui s'insinue. Visiblement c'est pas que chez moi, parce qu'on retrouve, y compris chez ceux dont on pourrait penser qu'ils sont les plus protégés, ce qui ressemble à une forme d'inquiétude. On a appris par exemple le mois dernier que Mark Zuckerberg était en train de se faire construire un bunker sur l'île d'Hawaï, qui vient ajouter son nom à une longue liste de milliardaires qui sont en train d'acquérir des biens immobiliers apocalyptiques. Et donc, il semble bien qu'on a un contexte catastrophiste qui s'installe doucement mais sûrement et finalement qui résonne assez fortement avec ce qu'on va appeler les discuter ce soir, à savoir les discours effondristes, ce qui s'articule plutôt à la première des crises que je nommais, à savoir la crise, les crises plutôt écologiques. Le concept de collapsologie, je ne sais pas si vous connaissez tous, si vous en avez tous entendu parler, c'est quelque chose qui est apparu il y a bientôt une dizaine d'années sous la plume de Raphaël Stevens et de Pablo Servigne. Donc c'est un néologisme. Un anglicisme, en fait, ça vient du latin à la base, le collapsus. Donc, mais ça pourrait être aussi vu comme un. Mais de fait, il y a sans doute eu un petit passage par l'anglais quand même, à moins qu'il soit vraiment de latiniste chevronné. Et donc, ce qu'ils proposent de faire, eux, c'est de fonder, d'inaugurer une démarche transdisciplinaire d'étude de l'effondrement de la civilisation industrielle, en s'appuyant sur deux modes cognitifs qui étaient jusqu'ici plutôt opposés, c'est-à-dire d'un côté la raison et de l'autre l'intuition, ce qui finalement les conduit à promouvoir une forme de catastrophisme éclairé, on pourrait dire. Et ce faisant, ils réactivent des schèmes classiques de la pensée écologiste qui portait déjà en son sein un horizon potentiellement sombre. Ce qui avait pu être creusé par des penseurs comme Günther Anders plutôt dans le XXe siècle autour des questions nucléaires, lorsqu'il évoquait par exemple une apocalypse sans royaume. Donc, fort de cet ancrage catastrophiste qui se développe qui s'articule à une pensée écologiste, sont progressivement recrutés, comme on dit en sociologie, différents individus qui viennent de catégories assez diverses, même si un profil peut se dégager, c'est ce dont on va parler ce soir, et adhèrent progressivement à de nouvelles formes de raisonnement, en tout cas des nouveaux modes cognitifs, justement, et s'approprient ce nouveau mode cognitif qui est celui de l'intuition, parfois en adhérant à des discours qui peuvent aussi résonner avec une forme discursive à laquelle on est plutôt habitué dans des milieux ou dans des traditions spirituelles. Et nous, c'est ce qui nous intéresse aussi, du coup, en tant que chrétiens. Donc, ce qu'on va chercher à creuser ce soir avec nos deux intervenants, ça va être justement les parallélismes qu'on peut essayer de tracer entre les tropes proprement effondristes et les formes de discours plus traditionnellement trouvées, les formes de récits eschatologiques qu'on retrouve dans différentes traditions spirituelles, notamment le christianisme, mais pas que. Et donc je vais présenter, et pour ça on va pouvoir s'intéresser à la fois au discours et également au public, et c'est parfait parce qu'on a deux spécialistes, l'un en sociologie, parfait pour les publics, et l'un en sciences de communication, parfait pour les discours. On a d'abord Joseph Gott, qui est doctorant en sciences de la communication à l'UPEC, qui travaille sur la circulation des thèmes effondristes dans les discours d'intellectuels et de militants depuis une dizaine d'années. Et puis également le plaisir d'avoir avec nous Cyprien Tasset, qui est maître de conférence en sociologie à VET AgroSup, et qui a mené pendant quelques années des enquêtes sur les publics de l'effondrement, notamment sur la base d'un terrain d'enquête au sein de l'association Adrastia. Donc il pourra nous parler ensuite. Et donc pour commencer cet échange, on peut peut-être vous demander de nous expliquer un peu. Déjà, qu'est-ce que l'effondrement finalement, et qu'est-ce que les discours effondristes, et qui sont les effondristes aujourd'hui en France, est-ce qu'ils forment un groupe social cohérent ou pas, est-ce que c'est plutôt diversifié, qu'est-ce qu'on peut dire d'eux finalement, pour planter un peu le décor. Je vous laisse l'un ou l'autre.
Merci. Alors, qu'est-ce que vaut mieux faire, commencer par le discours ou commencer par le public?
Ça peut être original de commencer par le public avant de parler des discours, mais...
Ouais, on peut, si tu veux. D'abord, merci beaucoup de cette invitation. Je suis ravi d'être là, ici, pour discuter avec vous. Juste pour clarifier ça, je porte un masque parce que je ne suis pas convaincu que la crise de Covid soit arrêtée en 2022, ni qu'elle soit complètement derrière nous, et je n'ai pas envie d'en faire les frais, ni que vous en fassiez les frais à cause de moi. Donc il y avait l'expression de prendre soin les uns des autres tout à l'heure, et pour moi ça en fait partie, et aussi de moi-même. Mais je souris habituellement sous le masque, et voilà, quand je ne le porte pas, les gens disent que j'ai l'air aimable, donc voilà, prenez-le pour dit. Alors après, commencer par le public. Je vais commencer par une scène, donc par vous décrire un endroit où je me suis trouvé il y a, au début 2016, il y a quelques années. Je venais de finir ma thèse de sociologie sur tout à fait autre chose, et il se trouve que je suis venu avec donc l'association Adrastia à une invitation aux rencontres du Shift Project, le think tank du consultant énergétique Jean-Marc Jancovici. Et donc j'avais de très dépaysant de me retrouver parmi des gens qui étaient en costume cravate sur leurs heures financées par leur entreprise, avec beaucoup d'argent derrière tout ça. Et un membre d'Adrastia avec qui j'ai discuté, donc qui était là au titre du fait que l'association avait des liens avec Jean Covici, m'a pris à part pour me dire on est un peu dans une situation qui ressemble à celle de la fin de l'Empire romain, et tu sais, il y a quoi qui s'est reconstitué à cette période-là? Il y avait les premiers chrétiens, et puis peu de temps après, les monastères. Et nous, dans cette association, on est un peu comme ça, on est un peu comme les premiers chrétiens qui s'apprêtent à reconstituer une civilisation sur les ruines de celle qui se casse la figure. Et donc ce propos m'était tenu par un cadre supérieur, membre avec des difficultés avec sa boîte à l'époque, mais de l'état-major d'une grande entreprise. Et donc voilà, cette anecdote a noué pour moi d'abord la confirmation que c'était un terrain où il fallait absolument que je m'investisse. Ensuite, Apocalypse et... oui, il était bien question d'apocalyptisme. Et puis aussi, ça a insisté sur la dimension collective du rapport à l'effondrement. C'est-à-dire, la personne qui me parlait insistait sur le fait que ça se vivait en collectif, que c'était le groupe qui était le sujet de l'assimilation, de l'encaissement de la mauvaise nouvelle de l'effondrement, et des façons de la surmonter. Et puis moi, le fil que j'ai suivi, c'est le côté cadre supérieur. Alors, il n'y avait pas que des cadres supérieurs, ni dans l'association, ni dans la sphère, la nébuleuse d'attraction des théories de l'effondrement. Il y avait une dimension assez, on va dire, partagée un peu plus vers le bas de l'espace social. sans que les classes populaires y soient jamais très représentées, mais avec une part de mixité vers les classes moyennes ou les petites classes moyennes. Mais il y avait quand même. J'ai eu l'impression dès le début que et puis elle a plutôt été confirmée par ce que j'ai pu faire par la suite, que les cadres supérieurs, et en particulier les cadres d'entreprise, les cadres du privé, et beaucoup les ingénieurs y étaient particulièrement représentés. Alors c'est peut-être en partie un effet Jean Covici dans ce qui a été mon point d'entrée empirique, mais du coup, c'est beaucoup à travers ce lien ingénieur, cadre et effondrement que moi, j'ai enquêté et réfléchi sur le public et la théorie de l'effondrement. Donc sans dire que c'est exclusif, sans dire que, évidemment, les endroits que j'ai hantés étaient toute la collapsosphère, mais ça en était quand même une partie significative et qui aura eu pendant quelques années un peu de rayonnement. Et donc il y avait quelque chose pour moi à élucider dans comment est-ce que on en venait à parler d'effondrement en costume cravate. Alors je ne vais pas tout dévoiler de la suite après. Ouais, peut-être je te laisse la parole après avoir donné ce premier aperçu des publics et d'une partie de la réception. Et après, je redétaillerai. Tu vas maintenant dire à quoi est-ce qu'ils adhéraient.
Volontiers. Je me rejoins au remerciement à Timothée et à Paul, et aussi je remercie Cyprien parce que voilà, c'est une des personnes qui, dans les tout débuts de ma thèse, s'est rendue assez vite disponible pour discuter avec moi et voilà, brainstormer un petit peu sur le sujet qui prenait forme, mon objet de recherche. Je sollicite un peu votre indulgence parce que c'est vrai que je commence tout juste la période un peu de rédaction de ma thèse, et donc j'ai évidemment beaucoup d'informations en tête et en même temps parfois pas toujours d'organisation et de formalisation dans mes analyses. Mais pour revenir peut-être sur une focale un peu plus sur les discours effondristes, je pense que on pourrait le présenter comme un discours qui est à la fois prospectif, hein, puisque donc c'est la possibilité en général d'un effondrement qui serait à venir, et puis à la fois ce côté aussi malgré tout rétrospectif, parce qu'il y a aussi cette idée que des chutes d'empire, dont l'Empire romain qui a été cité, on pourrait apprendre des leçons et qu'il y aurait peut-être des parallèles à faire. Et donc ce discours à la fois prospectif et rétrospectif repose notamment sur un travail un peu de compilation de publications scientifiques. Donc ça, c'est très fort dans le premier ouvrage qui a été cité de Pablo Servigne et Raphaël Stevens, Comment tout peut s'effondrer, donc l'ouvrage qui est paru en 2015 et qui introduit ce néologisme de la collapsologie, et où en fait il y a une série, voilà, d'études, d'articles qui sont compilés, tout un travail un peu bibliographique avec une volonté un peu de vulgarisation aussi scientifique. Et puis il y a aussi, oui, c'est vrai, toute cette place qui est attribuée aux intuitions, avec cette idée un peu d'une présence éveillée au monde, de voir un petit peu ce qu'on pourrait dire peut-être dans la théologie les signes des temps, et de voir un peu ce qui se passe, et notamment un souci autour de la capacité à court ou à moyen terme des services encadrés par la loi, c'est une définition qui revient souvent, à fournir les besoins de base, l'alimentation, l'énergie, la mobilité, à une population mondiale qui est à la fois croissante, donc il y a quand même la question de la démographie qui est toujours un peu là, et à la fois une population qui est victime d'un durcissement des conditions d'habitabilité terrestre, donc avec des choses qu'on connaît bien maintenant, des événements climatiques extrêmes, l'érosion de la biodiversité, la raréfaction des ressources, les pollutions, etc. Je pense que c'est pas mal aussi de resituer le discours effondriste dans un phénomène plus large qu'on pourrait appeler le catastrophisme écologique, qui correspond, on pourrait dire, à une manière d'appréhender l'écologie politique qui est là finalement. Dès les débuts de l'écologie politique, dans les années 70, on a parlé d'intellectuels comme Günther Anders tout à l'heure, qui incarnait aussi ça dans la pensée écologique. Et c'est une approche, le catastrophisme écologique, qui est sans cesse mise en concurrence dans le champ de l'écologie politique par d'autres approches qui seraient plus continuistes et consensuelles. Donc en témoignent notamment des formules comme développement durable, transition, donc des vocabulaires qui sont plus connotés positivement et qui sont toujours là quelquefois comme point de pour contrebalancer peut-être des discours plus catastrophistes. La difficulté dans le fait de définir les discours de l'effondrement, c'est qu'il n'y a pas forcément de consensus ou d'unanimisme sur la nature de l'effondrement. Et il y a donc certaines lignes de clivage qui se démarquent, peut-être Cyprien voudra en citer certaines. Celles qui me viennent en tête, c'est est-ce que l'effondrement est singulier, donc un événement, ou est-ce que c'est quelque chose qui est pluriel? Ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup. Est-ce qu'il est à venir ou est-ce qu'il ne serait pas déjà en cours? Ça aussi, il y a notamment dans la politisation des questions de l'effondrement, ça change pas mal la donne en fonction de la réponse à cette question. Et puis pour d'autres, évidemment, cette question de est-ce qu'il est évitable ou pas? Et là encore, pas mal de débats. Et donc juste pour appuyer aussi le fait que qu'il n'y a pas d'unanimisme sur la nature de l'effondrement, je peux citer un passage de ce livre-là qui fait date de 2015, où du coup les deux auteurs vont dire « Qui est concerné ?» point d'interrogation, « Les pays les plus pauvres, la France, l'Europe ?» point d'interrogation, « L'ensemble des pays riches ?» point d'interrogation, « Le monde industrialisé, la civilisation occidentale, l'ensemble de l'humanité, ou même, comme certains scientifiques l'annoncent, la grande majorité des espèces vivantes. » Il n'y a pas de réponse claire à ces questions, mais une chose est certaine, aucune de ces possibilités n'est à exclure. Donc voilà, on voit dans cet extrait que le discours, en tout cas le ton, n'est pas extrêmement assertif. Il y a d'autres variantes, hein, Pablo Servigne et Raphaël Stevens ne sont pas les seuls à porter le projet collapsologue, mais en tout cas ce qui revient dans les effondrements possibles, c'est... d'une part, l'effondrement de la biodiversité, qui est quand même un élément récurrent et quand même solidement ancré dans des publications et des parutions scientifiques. Et puis, l'effondrement de ce qui est parfois appelé la civilisation thermo-industrielle, avec des contours qui ne sont pas toujours évidents à cerner sur l'étendue de cette civilisation-là. Mais quelque chose est clair, c'est que cet effondrement est singulier dans l'histoire parce qu'il serait à la fois systémique et planétaire, planétaire comme un peu cette conséquence de la mondialisation. Malgré le fait que c'est planétaire, même les auteurs les plus pessimistes, on peut citer l'ancien ministre français Yves Cochet, si on les écoute, en fait, il y a toujours cette idée qu'il y aura quand même des poches de population qui vont survivre. Alors, Yves Cochet parle parfois d'une réduction de moitié, mais donc qui ferait arriver peut-être à 3 milliards, 4 milliards d'habitants. Donc, assez rares sont finalement les personnes qui envisagent l'effondrement comme vraiment une extinction de l'espèce humaine, même si ça existe. C'est plutôt hors, en tout cas, des auteurs canotiquement collapsologues. Voilà, alors je vais peut-être juste donner quelques données un petit peu plus sociologique sur les auteurs, les personnalités que j'étudie, puis peut-être Cyprien voudra réagir aussi sur les discours. Mais moi, c'est à peu près 200 personnes, 200 personnalités publiques qui ont retenu mon attention, qui sont des intellectuels et engagés, qui produisent beaucoup de contenu sur le sujet. Et donc, il y a en gros trois quarts d'hommes et un quart de femmes, donc une surreprésentation des hommes. Une surreprésentation des personnes titulaires d'un doctorat, on est à plus de 50%, on rajoute plus de 30% pour ceux qui disposent d'un master, donc il y a un ancrage dans les sphères académiques, intellectuelles, scientifiques qui est assez fort, même si on constate qu'il y a des trajectoires de sortie aussi des institutions académiques. Pablo Servigne, par exemple, a un doctorat, il pouvait... être voué potentiellement à aussi une place dans le monde de la recherche, mais il a décidé de s'en extraire parce qu'il considérait aussi ne pas avoir la liberté pour alerter comme il le souhaitait faire. Et puis, voilà, il avait aussi toute une distance sur la lenteur du monde de la recherche et ce qui l'a poussé finalement à avoir recours à un livre grand public pour alerter plus massivement. Voilà, puis des éléments qui reviennent souvent, mais c'est la sous-représentation assez forte hein, des personnes non blanches. C'est assez clair. Et générationnellement, alors moi j'ai relevé pas mal de personnes qui sont nées dans les années 70. C'est la majorité, après dans les années 50. Donc voilà, en fait, j'ai eu assez peu de catégories les plus jeunes, mais ça peut aussi trouver des explications sur le fait que je me suis intéressé principalement à des ouvrages, donc il y a quand même une entrée en termes de capital culturel qui est assez forte. Mais donc voilà, un petit peu, si je devais résumer le prototype de l'effondriste tel que moi je l'étudie du point de vue de l'émission des discours, de la production, ce serait un homme blanc titulaire d'un doctorat plutôt en sciences dures et qui approche voilà, de la cinquantaine. Voilà, alors Yves Cochet, dont je parlais tout à l'heure, il se décrivait en entretien comme un petit bourgeois frustré, producteur de biens symboliques. Voilà, alors lui, il n'est pas tout à fait dans la catégorie en termes d'âge, mais ça dit aussi quelque chose sociologiquement et je pense que Cyprien pourra en dire bien plus, lui qui a travaillé particulièrement sur ces catégories aussi. Voilà, des intellectuels plutôt précaires.
Ouais, je veux bien rebondir là-dessus, mais ça dit quelque chose, ce point du caractère malicieux de Yves Cochet. Et donc surtout, merci d'avoir donc, caractérisé un peu le corpus des théories de l'effondrement. Donc on voit bien ce qui s'est passé dans la séquence dans laquelle moi j'ai enquêté et dans le sillage dans lequel tu enquêtes, c'est le succès public et la très grande visibilité médiatique pendant un moment de la collapsologie de Savigny-Stevens. Mais voilà, avant eux et ensuite autour d'eux, il y avait tout un tas d'autres versions de théories de l'effondrement, de gens qui disaient effondrement, mais qui le disaient différemment. Et alors, pour nouer un peu nos deux approches, moi, ce qui m'a intéressé là-dedans, c'est que ces auteurs qui, effectivement, font de la vulgarisation, écrivent des essais avec des chiffres et font des démonstrations donc avec un certain ancrage, même si c'est discutable sur le fond scientifique, avec un certain ancrage dans l'écologie scientifique, dans ses différentes branches, ou dans l'économie écologique. Donc malgré l'austérité apparente du sujet, c'est les ouvrages de la collapsologie et de beaucoup de leurs émules sont très didactiques. Les auteurs de la collapsologie, d'ailleurs ce qu'ils avaient fait les années précédentes, c'était de l'éducation populaire, donc c'est vraiment la pédagogie qui est leur deuxième formation, leur deuxième compétence après des compétences scientifiques plus généralistes. Et du coup, ils ont réussi à tourner ces savoirs d'une façon qui soit très facilement assimilable, d'une façon qui soit captivante et saisissante, donc on va dire il l'était déjà en pièces détachées avant l'ouvrage de 2015, mais ils l'ont rendu plus facile, plus accessible. Et ce qui m'a frappé quand j'ai commencé à rencontrer sur des forums électroniques puis en vrai des gens qui étaient des adhérents, pas des producteurs eux-mêmes d'ouvrages sur l'effondrement, mais des gens qui étaient affectés, qui étaient marqués par ça, et ben c'est ce fait d'être touché par un discours. Et là, puisqu'on est en train de discuter dans un café chrétien, ce fait qu'il y ait une parole qui, à un moment, transforme la vie de quelqu'un et qui l'amène à raconter son existence avec un choc, une bifurcation au moment de la rencontre, de sa rencontre avec ce discours, c'est quelque chose, là je retraduis en termes chrétiens, quelque chose que je me suis dit aussi en termes sociologiques avec la science, pas de souci, mais voilà, c'est quelque chose qui rendait le phénomène qui se jouait autour de l'effondrement, qui a fait que ça a attiré ma curiosité. Et voilà, je pense que c'est aussi ce discours qui saisit et qui transforme. On va discuter ensuite de comment, enfin, quelle sorte de mélange, quelle sorte de chimie il provoque entre désolation et espoir, exaltation, chaleur communautaire, etc.
Ça nous fait une très bonne transition sur la suite, puisque du coup, comme le disait Paul dans sa présentation, nous, ces questions, elles nous interpellent particulièrement en tant que chrétiens, puisque quand on parle de fin du monde, de discours apocalyptique, forcément, on est ramené à l'eschatologie chrétienne, à l'Apocalypse de Saint Jean. Tu me diras si je me trompe, Joseph, mais il me semble que dans tes recherches, tu mobilises le concept de la notion d'affinité élective, donc qui remonte à Max Weber, qui l'utilisait, ou peut-être avant, mais en tout cas on l'associe à Max Weber, qui parlait de ces connexions, ces affinités qu'il pouvait y avoir entre l'éthique du capitalisme et un certain ascétisme protestant, notamment dans les pays anglo-saxons. Et donc c'est une expression qui a été un peu perpétuée pour essayer de voir les convergences, les affinités qu'il pouvait y avoir entre des discours, des schémas théologiques et de la pensée politique ou des systèmes économiques. Donc en l'occurrence, c'est assez intéressant de voir comment ça peut permettre de rapprocher et de voir aussi évidemment les différences qu'il peut y avoir entre cet effondrisme a priori sécularisé, séculier, qui ne part pas d'un point de départ spirituel, et tous les discours millénaristes qu'ont produit les traditions spirituelles, a fortiori monothéistes, celle qu'on connaît mieux, on va dire, celui qu'on connaît mieux, c'est le millénarisme chrétien. Voilà, tous les deux, dans vos recherches, quelles affinités vous avez pu rencontrer entre ces discours, ces pratiques de l'effondrement et la notion spirituelle de millénarisme.
Donne ta question, peut-être d'abord pour toi. Vas-y, t'en prie.
Ouais. Alors Cyprien a aussi travaillé cette question-là par la catégorie de l'affinité élective. Moi, c'est une question qui me porte depuis le début de ma thèse, parce que c'est un petit peu ça qui m'a poussé à m'intéresser à la collapsologie, étant totalement novice au départ avec les écrits collapsologues. J'avais trouvé intéressant ces deux types d'eschatologie, notamment dans le début de ma thèse, qui est la période Covid, donc avec un peu cette aura apocalyptique qu'on voit dans les médias et qui est souvent d'ailleurs une référence qui est faite dans les discours. Si on reprend le terme de millénarisme, c'est intéressant d'ailleurs de le formuler comme ça, mais le millénarisme, en fait, peut-être que ça vaut le coup un petit peu d'essayer de le définir. Certainement, vous le savez peut-être mieux que moi, certains, mais donc le millénarisme, dans la théologie chrétienne en tout cas, renvoie en fait à notamment le chapitre 20 de l'Apocalypse de Jean, où il est question d'un règne terrestre du Messie pour une durée de 1000 ans. Donc c'est un petit peu un point de départ qui, me semble-t-il, a donné le nom en tout cas de millénarisme. C'est un passage qui est en fait assez discuté théologiquement. Puisque en fait, c'est pas tellement la destination, c'est pas le royaume, c'est une étape vers le royaume. En tout cas, c'est souvent pas mal de débats qui gravitent autour de ça. Et du coup, il y a trois lectures possibles qui reviennent. Une première lecture qui serait plutôt celle de l'amillénarisme, ou qu'on peut appeler aussi millénarisme accompli. Et ça, je pense que c'est la tendance qui a été plutôt dominante, c'est en fait de penser que cette idée de 1000 ans, en fait, on est déjà dedans depuis que le Christ est parti et qui siège. Enfin, voilà, cette idée que on est déjà finalement dans une forme du règne terrestre de Christ, ça c'est plutôt une lecture amillénariste. En revanche, il y a d'autres lectures qui soutiennent l'idée que le Christ va revenir, mais va revenir pour instaurer ce règne-là, et que ce règne-là sera suivi d'autres étapes. Et là, c'est plutôt une lecture qu'on pourrait qualifier de prémillénarisme, qui finalement va vraiment... Il y a cette idée un peu descendante que Dieu va instaurer cet âge d'or. Et la troisième lecture, on pourrait la qualifier de post-millénariste, c'est une lecture qui est moins représentée aujourd'hui, mais qui serait un peu celle finalement d'un progrès où Dieu va œuvrer au travers des êtres humains pour construire ce royaume, ce règne et cet âge d'or. Et en fait, ça c'est des notions plutôt théologiques, mais même dans ceux qui ont étudié les mouvements millénaristes sécularisés, en fait cette grille de lecture peut aussi servir à l'analyse. Je pense notamment à quelqu'un comme Henri Desroches. Et donc, finalement, c'est intéressant de savoir qu'est-ce qui pourrait être un millénium dans le cadre de ces discours de l'effondrement écologique. Ouais, pour certains, il y a cette idée qu'il y a vraiment, après l'effondrement, ce serait finalement l'hypothèse d'une fin de l'humanité, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose qui est assez peu représenté. Et de l'autre côté, en fait, on va avoir des discours autour de Pablo Servigne et de ses co-auteurs qui vont justement avoir affiché cette volonté d'inventer le récit d'une autre fin du monde. Ça, c'est un peu l'idée d'un ouvrage qui est paru en 2018 qui s'appelle « Une autre fin du monde est possible ». D'ailleurs, il est question il y a un jeu de mots entre « happy collapse » et « apocalypse ». Explicitement, c'est formulé dans ces termes-là. Et donc là, on voit qu'on serait plus sur quelque chose qui serait la fin du monde, mais plutôt la fin d'un monde, ce qui rejoint d'ailleurs plutôt la conception chrétienne de l'apocalypse, où l'apocalypse n'est finalement qu'une transition vers autre chose. À partir de là aussi, Pablo Servigne va développer toute une réflexion avec un autre chercheur belge indépendant qui s'appelle Gauthier Chapelle. Et donc, ils vont publier L'entraide, l'autre loin de la jungle, qui est une façon un peu de contrebalancer un récit un peu très apocalyptique. De catastrophe, où ce serait la guerre de tous contre tous. Avec cette volonté un peu de créer des sortes d'utopie, de coopération, de finalement revaloriser ce qui serait l'autre loi de la jungle, c'est-à-dire pas seulement la compétitivité, mais aussi la coopération comme principe de survie. Et donc à partir de là, il y a effectivement des propositions de réorganisation sociale post-effondrement. On peut citer le biorégionalisme qui une proposition de réorganisation un petit peu territoriale, géographique, à partir un petit peu de... en partant non pas de découpage institutionnel, politique, mais de la géographie des espaces en tant que tels. Il y a aussi, dans un versant un peu plus marxiste, tout ce qui va être autour du municipalisme libertaire. Et puis d'autres, tout simplement, qui vont peut-être avancer une forme de généralisation des ZAD, des zones à défendre, donc tout ce qui peut s'y vivre, de envisager le post-effondrement de cette façon. Donc il me semble qu'en ce sens-là, on peut rejoindre cette idée d'une forme d'avènement eschatologique d'un règne ou d'un royaume qui suivrait l'effondrement. Évidemment, on voit que là, c'est sous des traits très sécularisés et vraiment sur une perspective de l'ici et maintenant, sur Terre. On n'est pas du tout dans cette conception d'un Dieu transcendant qui viendrait instaurer ce règne-là. Donc, on est, à mon sens, je pense que le prémillénarisme n'est pas du tout, enfin, me semble pas approprié pour décrire ça. Par contre, l'idée un peu plus post-millénariste de quelque chose qu'on va construire, un projet un petit peu de partant du bas, bottom to top, me semble peut-être un peu mieux décrire ce projet-là. Donc voilà, je répondais un petit peu au millénarisme. Et puis après, par rapport à la littérature apocalyptique, il y a d'autres bases pour poser l'hypothèse d'une affinité élective. C'est notamment le rapport au temps et cette idée qu'on est vraiment dans l'attente, dans le délai. Et ça, je pense que ça fonctionne à la fois bien sur le public collapsologue et à la fois bien sur l'horizon, en tout cas des premiers chrétiens, où voilà, on est sur... Enfin, ça, c'est quelque chose qui est très bien développé par l'historien François Hartog. Je pense que Timothée, tu l'as lu récemment aussi.
Non,
c'est pas... Tu l'as cité, je crois,
chez lui.
Ah bon, ouais. Il faudra revoir ton fil Twitter. Donc ça, ouais, c'est un peu ce retour. Alors lui, il parle de présentisme pour voilà, décrire un peu la prédominance de la catégorie du présent pour agir. Et donc il y a une certaine rupture aussi plus ou moins actée avec plutôt une conception moderne du temps qui irait vers un progrès. C'est peut-être un aspect qui est intéressant et qui pourrait voilà, appuyer des similitudes. Il y a ce recours à un discours de type révélatoire. Donc l'apocalypse, c'est étymologiquement la révélation. Et on voit que dans les discours de l'effondrement, en effet, on est un peu dans ce genre de discours où il y a une sorte de révélation à transmettre. Voilà. Et puis il y a peut-être une affinité sur laquelle on pourra venir qui, à mon sens, me semble plus riche et plus pertinente encore. C'est finalement toute une tradition prophétique qui voilà, à la fois recoupe bien l'Apocalypse de Jean. Jean est quand même s'inscrit aussi dans un écrit prophétique avec son Apocalypse. C'est parfois un peu oublié, mais il est vraiment dans cette tradition-là. Et à la fois, bah, dans ces lanceurs d'alerte écologistes, il y a aussi quelque chose voilà, que je trouve qui remplit un peu ce rôle-là du prophète. Et bon, on y reviendra, je pense, un peu plus tard.
Merci. Alors, donc sur les relations entre les théories de l'effondrement et le millénarisme chrétien, alors moi là-dessus, je vais commencer par partir du travail d'un chercheur, un anthropologue ou un chercheur en sciences des religions qui s'appelle Jean Chamel, qui a étudié ce qu'on peut qualifier de terreau de la collapsologie, c'est-à-dire les milieux intellectuels qui sont un peu, bah, je pense, un peu ceux que Joseph étudie, mais on va dire dans les 5 ou 10 années d'avant, et qui voyait qu'en fait il y avait deux réseaux qu'on peut conceptuellement distinguer, qui sont plutôt un réseau d'écologie systémique, où on s'intéresse au système Terre, à son métabolisme, ou à l'entropie, à l'épuisement de l'énergie, et à la création de désordre et d'irréversibilité sur Terre. Et donc qui est une façon, une clé de lecture de la dévastation environnementale, donc ça d'un côté. Et de l'autre côté, il y avait une autre nébuleuse qui était plutôt éco-spirituelle et qui s'intéressait à la dimension spirituelle du deuil écologique d'une terre en train de se défaire et de périr. Et en fait, ces réseaux avaient plein de points de porosité, c'est-à-dire que les ingénieurs technoscientifiques, en fait, pour une partie d'entre eux, avaient des relations très fortes, voire des pratiques eux-mêmes qui relevaient de l'éco-spiritualité, et vice-versa. Et donc c'est un peu là que la recette de la collapsologie qui a rassemblé les deux s'est préfigurée quelques années avant que Servine et Stevens viennent trouver cette formule, la rendre publique, et avant qu'elle trouve ce succès-là. Donc, on peut dire, première réponse sur l'affinité entre un millénarisme, une eschatologie chrétienne d'un côté et la théorie de l'effondrement de l'autre, c'est deux milieux intellectuels qui, au cours on va dire, du début du XXIe siècle, pour faire large, étaient déjà en porosité et en convergence. Ensuite, je dirais que dans la propre façon dont j'ai enquêté moi là-dessus il y a quelques années, Je voyais moins le rapport entre millénarisme et effondrement comme une affinité que comme une analogie. J'avais plutôt l'impression de retrouver plein de caractéristiques, de phénomènes religieux autour du milieu qui se rassemblait autour des théories de l'effondrement. Une façon de prendre ça, c'est de dire que, en suivant la conscience même qu'avait, par exemple, l'enquêté que je vous ai cité en commençant, qui faisait du même rapport avec le christianisme, on pourrait dire qu'il y a une analogie possible entre la façon dont les partisans des théories de l'effondrement se voient et voient leur opposition au développement durable, qui était un petit peu leur allégeance par défaut, celle qui figure dans les plans de des structures dans lesquelles ils travaillent, et qui promet que, en gros, si on verdit un peu certains trucs, ça va bien se passer. Et leur nouvelle conviction que ça va s'effondrer, il y a une analogie entre une église établie et une prophétie hérétique. L'église établie ayant plutôt tendance à dire nous vous garantissons le salut, si vous faites comme on dit, le salut va advenir, il n'y aura pas de casse, pas trop, mais voilà, il faut nous obéir. Et l'hérésie disant l'église établie est en faillite, le salut qu'elle promet n'arrivera jamais, ça va se casser la figure. Nous, on vous dit la vérité sur le salut, elle est dure, mais si vous nous entendez, au moins vous serez dans la vérité, quoi. Donc il y a une analogie qui fonctionne à ce niveau-là. Elle fonctionne aussi avec le fait que les adhérents aux théories de l'effondrement que je côtoyais se décrivaient et se racontaient eux-mêmes comme des convertis, vraiment comme des gens dont la rencontre des théories de l'effondrement avait changé leur conception du monde et en partie leur vie aussi. Dans un texte que je relisais dans le train en arrivant, une chercheuse qui s'appelle Barker, qui étudie en Angleterre les preppers, donc plutôt les gens qui se préparent à une catastrophe, donc, avec une entrée plus pratique qu'adhésion à une théorie, elle décrivait qu'ils ont tous, quand elle les interviewe, des récits de ce qu'elle appelle en anglais « awakening ». Ils se racontent tous comme s'étant réveillés à un moment, du sommeil dans lequel ils ont l'impression que tous les autres sont plongés et pataugent. Et les gens que je croisais dans mon enquête se racontaient vraiment comme ça. Et d'ailleurs, le partage de ces récits faisait partie des activités quasiment principales de ces collectifs dans lesquels les nouveaux venus isolés cherchent un collectif à rallier pour se prouver qu'ils ne sont pas fous et pour chercher quoi faire ensuite. Et donc arrivent en faisant le récit de comment... alors pour le reproduire schématiquement, bon évidemment ils ont toujours eu une sensibilité aux petits oiseaux et aux petits poissons, mais ils ont fait des études et un travail comme tout le monde, comme on leur demandait, et puis tout se passait plus ou moins bien pendant un certain temps, et puis quand même il y avait le bruit informationnel inquiétant en général, le décalage entre les promesses de l'entreprise et ce qu'ils voyaient des fonctionnements réels ou matériels. Et puis, voilà, érosion successive, donc qui peut passer par des péripéties très variables de la foi dans la réussite, de la promesse d'un développement qui va devenir durable demain si tout le monde fait ce qu'il faut. Et puis, le moment où ils racontent leur emballement informationnel, quand ils commencent à approcher des théories de l'effondrement, donc souvent avoir la courbe du rapport Meadows qui dit si c'est business as usual, ça monte et puis ça descend, et ça descend, ça veut dire on est tous morts, c'est très désagréable. Mais en même temps, ça offre une structure qui donne une cohérence, une intelligibilité. C'est une construction intellectuelle systématique, un peu comme une théologie, quoi. C'est un système qui cadre le fonctionnement de la réalité et ce qu'on peut en attendre pour soi, pour son salut ou pour sa perdition. Donc là aussi, analogie qui fonctionne avec des phénomènes religieux classiques, surtout autour du christianisme. Voilà, et donc je dirais, pour finir, moi, l'affinité que j'ai suivie là-dedans, c'est plutôt l'affinité entre cadre et effondrement qu'entre effondrement et apocalyptisme chrétien. Et il m'a semblé que ce qui se jouait dans beaucoup de des récits de conversion, ou si on veut, de awakening de cadre, c'était beaucoup le fait que le contenu des théories de l'effondrement était en grande partie en continuité avec la façon dont les cadres résonnent dans leur travail. On leur demande de faire des courbes, des simulations, des modèles, d'apporter des arguments chiffrés. Et vraiment, le chiffré, c'est ça qui est tangible, c'est ça qui est fort, c'est pas comme... C'est un type de pensée qui est d'une consistance très différente de celle qui est beaucoup plus discursive, conceptuelle, évocative ou émotionnelle, et qu'on peut trouver dans d'autres branches de théorie critique. C'est une construction critique qui fonctionne au même niveau, sur le même plan, que la façon dont les cadres sont censés travailler et sont censés avoir confiance dans le fait que leur travail est censé et bénéfique à la collectivité à long terme. Et donc il y a un côté bug ou accident, si vous voulez, où les théories de l'effondrement, dans la mesure même où elles sont de la même matière que les promesses du développement durable, peuvent les déjouer et rompre l'adhésion plus ou moins forte que ces cadres ont eu. Et donc c'est comme ça que il m'a semblé qu'on pouvait éclairer la surreprésentation de cadres supérieurs techniques dans les milieux de l'effondrement. Donc voilà, c'est comme si ça parlait le même langage théologique, vous avez l'hérésie qui parle le même langage théologique que la théologie dont elle prétend rompre l'enchantement. Donc voilà pour finir l'allusion là-dessus.
Et en même temps, du coup, est-ce qu'il n'y a pas là un paradoxe finalement, enfin, ou comment on peut expliquer du coup ce paradoxe apparent, parce que a priori c'est pas le type de discours. Il y a toute cette charge affective ou symbolique dans les discours d'effondrement qui est également présente aux côtés d'une structure plus traditionnellement technoscientifique ou rationnelle, qui continue de s'appuyer sur les mêmes types de sources, de faire allégeance à la science, tous les types de discours auxquels ces cadres auraient pu être socialisés. Et qu'est-ce qui fait du coup que d'un coup comment on peut expliquer ça arrive à disjoncter ou que ça arrive à les toucher alors même que on change quand même de braquet en termes de mode ou de schéma de réflexion quand on bascule dans ces théories.
Question d'approfondissement sur ce que je viens de dire, donc je vais répondre d'abord. Alors, je pense qu'une chose qui joue beaucoup dedans, c'est l'exaltation d'apprendre. C'est-à-dire qu'il y a vraiment il y a vraiment dans les récits des effondristes, du coup, qui sont les effondristes auto-sélectionnés parce que c'est ceux qui y ont trouvé le plus d'intérêt ou le plus de choc existentiel, il y a vraiment le récit du fait que apprendre sur l'effondrement, faire le tour de la théorie, est en soi une sorte de passion exaltante. J'ai emprunté à d'autres pans de littérature sociologique l'expression de passion cognitive qui dit bien le fait que c'est l'appétence pour un savoir qu'on a vraiment envie de compléter une fois qu'on en a des fragments. Et donc pour poursuivre, c'est un peu une sorte d'homologue d'expérience mystique pour rentrer vraiment dans le questionnement que vous proposez. Après, comment est-ce que ça fait, comme tu dis, changer de braquet là-dessus? Je pense que c'est là où la recette, la conjonction entre un pan démonstratif qui est homologue de la rationalité, de l'ingénierie d'un côté, Et d'un autre côté, la dimension éco-spirituelle qui avoue les émotions, qui les met en avant, qui les met même en scène, est une recette très forte pour faire réaliser l'espèce de rupture de monde que représente le fait d'adhérer à une démonstration que la marche du monde, c'est la marche à la catastrophe générale. Donc voilà, moi je mets ça sur le compte de l'efficacité de la recette, vraiment d'un équilibre des théories de l'effondrement qui était parfaitement profilé pour en fait exprimer une crise latente chez plein de gens. Donc le bain informationnel sur le fait qu'on vit dans des mauvaises nouvelles de l'effondrement et de la politique, par quoi tu as commencé tout à l'heure, ça concerne à peu près tout le monde. Et le fait que du coup adhérer à une sorte d'optimisme sur la façon dont ça va finir, c'est pas très facile. Et il existe déjà dans l'encadrement, les discours faits pour entretenir l'engagement des cadres, leur foi dans leur travail, il existe déjà des versions très, très eschatologiques à leur façon, comme la singularité des progrès de l'intelligence artificielle, le transhumanisme, etc. Il y a une sorte d'imaginaire qui baigne l'encadrement à base de courbes qui montent, et regardez, ça va tellement monter, que ça va monter encore plus, ça va devenir presque vertical, et là, on va passer dans une humanité qui va être tout à fait autre chose que ce qu'elle est, et vous allez voir ce que vous allez voir, et vous êtes en train, dans votre travail quotidien, qui a l'air trivial avec vos fichiers Excel tout nuls, vous êtes en train de contribuer à ça, vous vous rendez compte ? Bon, et ben, y a une part d'imaginaire eschatologique présent dans le management, et si on enlève, bah, c'est, je sais pas, comme si on enlevait la machine à café, les gens perdent une partie de leur ardeur au travail, de leur force d'engagement au service du capitalisme. C'est un rouage du fonctionnement de la machine économique. Et en même temps, un rouage qui fraye une sorte de tendance eschatologique. Et donc quand ce schème eschatologique est retourné en schème de la catastrophe, et de la catastrophe pour soi, pour ses enfants, on visualise ses enfants en train de mourir de faim ou de violence. J'ai eu plusieurs récits de gens qui avaient rejoint l'association autour de laquelle j'enquêtais, qui parlaient de... Après le visionnage des vidéos les plus éloquentes ou la lecture du livre le plus frappant, du fait que pour ceux qui étaient parents, se retourner sur leurs enfants, imaginer ce qu'ils allaient subir, ça faisait ressentir tout à fait différemment et douloureusement leur rapport à la parentalité. Donc ça a touché des choses existentiellement très fortes. Et voilà, je reviens sur le fait que le produit collapsologique était parfaitement profilé, mais je ne dis pas ça pour l'accuser d'être stratégique, hein, mais vraiment comme pour comprendre le fait qu'il est frappé aussi fort avec des moyens qui ont l'air aussi légers. C'est, il touchait à des crises latentes et il les a fait, il leur a donné une façon d'éclater, en tout cas aux yeux de ceux qui entraient dans cette spirale informationnelle.
Ouais, je pense que c'est une question que Cyprien maîtrise bien mieux que moi. Peut-être qu'il y a donc dans cet univers un peu, dans cette nébuleuse effondriste, je pense qu'il y a, il y a différents pôles et il me semble que il y a un pôle qui est en effet beaucoup dans cette approche technique, assez froide, quantifiée, avec une prédominance des questions énergétiques notamment. Je pense à Jean Covici, Vincent Miro, Yves Cochet, qui incarnent pas mal ça. Et puis il y a un autre versant qui est plutôt dans une approche plutôt psychologisante, autour notamment d'une ouverture sur la spiritualité, sur l'expérience sensible, etc. Et qui en fait a une entrée qui est beaucoup plus autour des récits, des imaginaires. Donc là, je pense à Pablo Stevens et ses co-auteurs, mais peut-être pour donner aussi des noms.
Pablo Servigne.
Ah oui, Pablo et Raphaël Stevens, ouais. Et puis pour donner des noms de femmes, pour changer un peu. Je pense à Corinne Morel d'Arleux, peut-être que certains connaissent, ou la journaliste Laure Noilla. Et donc, pour juste... Il y a pas mal de choses qui ont été dites sur cette sorte de disjonction. Peut-être que... Donc, moi, je m'étais noté cette idée de guerre intellectuelle et militante. Je pense que ça recoupe un peu ce que vient de dire Cyprien. Mais quand même, que ce recours vers la spiritualité, en fait, vient alimenter une quête d'un apaisement intérieur face à un discours qui est quand même difficile à digérer, qui confronte à des questions existentielles, notamment de mort. Donc ça, c'est une chose. Il y a aussi, sur un versant plus militant, le fait de quand certains, disons, s'engagent dans une radicalité, dans des modes notamment de désobéissance civile, ça a peut-être été développé, mais cette culture régénératrice par rapport, par exemple, dont parle XR, donc c'est une façon un petit peu de nourrir les militants, de les aider à tenir sur la durée. Puis peut-être un élément qui me semble important aussi, c'est que, en fait, il y a un peu cette idée de déficit narratif, c'est-à-dire que face à ce qui serait inédit, en fait, on va partir de l'existant, et en même temps, l'existant est assez peu outillé pour vraiment décrire ce qui pourrait se profiler. Et il me semble que, notamment dans dans le contexte d'Europe, en tout cas d'occidentaux, européens, il semble que les ressources du côté des traditions judéo-chrétiennes, pour des personnes qui souvent ont quand même grandi dedans, est un peu une façon de donner sens à la crise écologique et à ses risques d'effondrement. C'est un petit peu, je pense, une des représentations disponibles de ce que pourrait être la fin, une fin de l'humanité. Et il me semble qu'il y a quelque chose presque de didactique, un peu, pour rejoindre ton idée, dans le fait de faire cet emprunt-là pour faire passer une idée qui est difficile sinon d'expliquer.
Pour poursuivre dans cette recherche des affinités ou d'une analogie entre le discours effondriste et le discours millénariste, tu mentionnais, Joseph, tout à l'heure un parallélisme entre deux figures, la figure biblique de la du prophète et la figure contemporaine du lanceur d'alerte. Pour explorer un petit peu ce parallèle, dans la figure des prophètes vétérotestamentaires et qui s'accomplit un petit peu dans la figure de Jean-Baptiste et a fortiori dans celle du Christ, il me semble qu'il y a un schéma, en tout cas moi je le perçois comme ça, un schéma assez récurrent, qui est d'abord celui de la dénonciation d'une situation présente, donc au sein du peuple juif ou souvent des élites juives aussi, donc voilà des comportements autour de l'idolâtrie, du fait de délaisser les pauvres et d'être dans dans un peu l'exposition d'une piété religieuse, mais en fait au détriment des pauvres, etc. Enfin voilà, il y a cette dénonciation d'un état de fait et un petit peu une ligne qui est tracée par les prophètes entre un horizon catastrophiste, si le peuple juif ou les élites juives persistent dans ces comportements-là, et de l'autre côté, un autre horizon plus lumineux, qui est celui qui va être celui du royaume dans l'évangile. Il me semble que dans la figure du lanceur d'alerte, il y a cette dénonciation d'un état de fait. Est-ce que cette analogie, est-ce qu'elle peut, enfin jusqu'où elle va et quelle limite elle peut présenter.
Alors ça m'inspire pas mal de choses. J'essaye d'écrire en plus en ce moment dessus. Donc le lanceur d'alerte en France, il a notamment, c'est une figure qui a été théorisée, introduite un peu par notamment un sociologue, Francis Château-Renaud, et avec Didier Torny, voilà, un peu la sociologie pragmatique. Et donc c'est marrant parce que eux déjà, c'était dans les années 90, et ils ont tout de suite constatais que le lanceur d'alerte était toujours confronté finalement à ce qu'ils appellent une figure limite du prophète, disons un modèle un peu en miroir avec lequel ils peuvent être assimilés et qui est toujours difficile de s'en démarquer, avec un flou entre ces deux figures-là, qui fait d'ailleurs la conclusion de leur ouvrage Les Sons Précurseurs, parce qu'ils notent que en fait, les prophètes de malheur d'aujourd'hui s'expriment dans un mode très rationaliste, en convoquant notamment des arguments scientifiques et techniques disponibles pour étayer leur vision. Il y a un petit peu cette parenté, et on peut se demander, je pense, si le lanceur d'alerte, en effet, n'est pas une forme de traduction un peu sécularisée de ce que pouvait incarner le prophète, par exemple, dans la société juive. Alors, quelques éléments qui, pour moi, me semblent appuyer cette analogie-là ou cette affinité. Évidemment, c'est le fait que c'est un discours prospectif, voire prédictif, qui porte sur des faits à venir. Ça, je pense que ça parle à tout un chacun. Cette idée aussi un peu d'une figure non conformiste dont tu as un peu parlé. Le prophète, c'est un peu celui qui dérange, c'est un peu le caillou dans la chaussure, c'est un peu Cassandre qu'on ne veut pas écouter dans la mythologie grecque. Et donc, il y a quelque chose de vrai aussi pour le lanceur d'alerte, en tout cas au moment où il lance son alerte et que celle-ci n'est pas encore prise en charge par toute une série d'acteurs. Après, il y a cette posture aussi un peu de retrait, plus ou moins subi. Tu as cité, par exemple, Jean-Baptiste qui reprend les paroles d'Ésaïe, « Je suis cette voix qui crie dans le désert », donc aussi le désert comme lieu symbolique aussi qui exprime la marginalité du prophète. Ce qui est d'ailleurs assez différent parce que Max Weber a pas mal écrit dessus et il dit que les chrétiens vont opérer avec un tournant plus communautaire, quelque chose d'assez différent par rapport aux prophètes de l'Ancien Testament où il y avait un isolement et donc voilà les formes de... En fait, le rapport à autrui est assez différent. Et donc ça, oui, le lanceur d'alerte, je pense qu'il y a aussi une part de vérité sur le fait que à la fois il se retire, donc je parlais de Corinne Morel d'Arleux, elle me raconte qu'elle est dans la Drôme où elle se retire pour écrire, et en même temps il y a un peu ce fait de côtoyer les foules de temps en temps pour diffuser la vérité qui aura été inspirée dans le retrait. Enfin, c'est moi qui analyse ça comme ça, elle ne le dit pas tel quel. Alors quelque chose qui est important aussi plutôt du point de vue de l'analyse des discours, c'est la portée performative du discours. Donc le fait que le prophète a vocation à ce que son discours agisse et ait des effets sur l'instance réceptrice. Donc souvent on cite Jonas dans le corpus biblique parce que c'est assez évident sur Ninive en fait, qu'il exhorte à se repentir et en fait il est dégoûté parce que Ninive finit par se repentir et du coup Dieu annule la destruction de Ninive. Et donc on voit que sa parole a eu de l'effet presque malgré lui, parce que lui n'avait pas envie que les Ninivites puissent subsister, ce qui va lui poser d'ailleurs un épisode dépressif vers la fin du livre. Et ça se finit sur ça. Et puis dernière chose, toujours un peu d'un point de vue discursif, c'est ce qu'on appelle en linguistique un phénomène de sous-énonciation, c'est-à-dire qu'en fait la parole... Le prophète comme le lanceur d'alerte transmettent une parole, mais quelque part, ils expriment avant tout le point de vue d'autrui. Je pense que pour le prophète, c'est une parole inspirée divinement. Et pour le lanceur d'alerte, et notamment pour les effondristes, c'est l'idée qu'en fait, c'est la science, c'est les données scientifiques qui nous disent que... Et donc, en fait, eux presque s'effacent, en tout cas, ils tentent de s'effacer pour laisser parler cette parole-là. Et donc, c'est un petit peu ça qui me semble. Alors après, évidemment, il y a aussi toujours sous des traits sécularisés, on s'entend, mais je trouve que la différence, la similitude est assez éloquente. Ouais.
Sur le rapport entre...
prophétisme et lanceur de...
Ouais. Alors, je vais revenir sur la référence à Château-Renaud et Torny, dans Les Sombres Précurseurs, qui est effectivement une référence hyper pertinente là-dessus. Si je me souviens bien, le prophète de malheur, donc c'est effectivement l'ombre du lanceur d'alerte en tant qu'il est disqualifié. Et il y a un autre pôle l'inverse. Le lanceur d'alerte, il est quelque part entre le prophète de malheur et l'instrument de mesure. Les lanceurs d'alerte industriels ou en entreprise, ils sont quelque part entre les deux. Ils ont quelque chose de l'instrument de mesure qui est juste là et qui fait bip quand on lui a dit de faire bip, quand il y avait telle condition qui repère. Donc les lanceurs d'alerte sont un petit peu ça, ils sont un petit peu prophètes de malheur, ils sont entre les deux. Un hybride plus ou moins heureux entre les deux. Et les porte-paroles de l'effondrement, ils ont un peu ce côté-là de regardez, on n'est que des instruments de mesure, on ne fait que suivre les métrologies du fonctionnement de notre monde. Et on vous dit, tous les voyants sont au rouge. Mais d'ailleurs, la formule même se trouve dans un certain nombre des discours effondristes. Il se présente comme une sorte de machine à enregistrer que c'est la crise. Tu l'as bien dit, en se retirant derrière le fait d'être les porte-parole des faits tels que notre système est paramétré pour enregistrer leur crise. Un point pour ajouter une facette à la dimension prophétique des porte-paroles de l'effondrement. J'en rajouterai peut-être une autre qui est un peu plus caustique vis-à-vis d'un des porte-paroles de l'effondrement, mais comme j'ai déjà écrit, je pense qu'il est déjà au courant que c'est ce à quoi il me fait penser. Je pense que la personnalité, l'incarnation en particulier singulièrement de Pablo Servigne, qui a vraiment été la tête de proue médiatique de l'effondrement entre 2015 et 2020, elle a quelque chose de... Alors d'abord, qui découle d'une éducation religieuse chrétienne dont il fait pas mystère, tout en disant que ça n'a pas énormément compté pour lui et que c'est surtout un anarchiste. Mais il avait une première éducation chrétienne et il me semble qu'il en reste quelque chose dans sa façon d'être présent, dans sa façon de poser sa voix, de regarder, de construire une sorte d'imaginaire de la situation, donc qui est, outre le fait qu'il est l'expert qui fait parler les courbes du système terrestre, il y a un côté un peu... j'utiliserai le mot d'agapéen pour distinguer cette sorte de forme, ce régime de l'action qui repose sur une forme particulière de l'amour, et que dans un de ses livres, Luc Boltanski rattache au personnage de Saint François d'Assise. Et donc il y a une façon d'être présent en ayant l'air de pas être là pour défendre sa pomme, pour défendre son amour propre, pour attendre, enfin pour donner quelque chose en échange qu'on lui rende un truc, pas être dans la captation, mais être dans une sorte de présence pure et d'attente des dons du monde et des autres, qui est une façon, donc pour Saint François d'Assise, de se canonique, puisque voilà, c'est un saint, de se rapporter au divin et d'en manifester l'existence dans le monde à travers sa façon d'être. Et je pense que le fait que dans son personnage public, Pablo Servigne a quelque chose d'un peu comme ça, en ne se fâchant jamais, en étant tout très doux, en n'ayant pas l'air intéressé au sens de l'intérêt, mais de l'ouverture aux autres et aux choses, de la gratitude vis-à-vis de ce qu'il reste du monde dans la destruction dont il est en train de parler. Et c'est une incarnation tout à fait singulière qui, je pense, chatouille des frayages religieux forts Donc c'est une des façons dont peut-être l'analogie prophète et porte-parole de l'effondrement peut être comprise.
Et du coup, si on se positionne au plutôt dans la perspective des récepteurs ou des fidèles, finalement, ou des disciples de ces prophètes, quel horizon philosophique ou mystique est-ce que ça trace ces discours, cet éthos aussi, finalement, de Pablo Servigne, si comme tu le décrivais, comme agapéen. Est-ce que il y a une différence entre les partisans, les adeptes de l'effondrement qui auront eu ou seront encore inscrits dans une tradition spirituelle monothéiste et ceux qui seraient plutôt agnostiques ou pas, ou est-ce que et quel serait l'horizon finalement, est-ce qu'il y a un royaume au bout, si on reprend un peu la métaphore d'Anders, est-ce qu'on est vraiment dans une apocalypse sans royaume, ou est-ce qu'on peut entrevoir quand même un royaume au bout? Qu'est-ce que vous auriez à dire sur le sujet?
Alors, on commence par le discours ou par le public cette fois-ci?
Bah, les deux, putain, vous pouvez quand même vous retrouver aussi, donc il n'y a pas de...
Alors, je pense sur le royaume, moi je trouve que l'hypothèse d'une apocalypse sans royaume est très vraie dans le contexte d'Anders, qui est le contexte du péril nucléaire. Donc, évidemment, on n'est pas sorti d'affaire, hein, mais c'est vrai que cette peur est quand même moins présente dans les discours aujourd'hui. Donc, c'est. Je trouve que le royaume. Si royaume il y a, il est un peu à chercher de ses points de vue, de ces quelques propositions utopiques, un peu de réorganisation sociale autour du lien et de communautés plus locales. Après, je pense que j'aimerais bien souligner quand même quelque chose qui m'a pas mal surpris dans mon enquête, c'est qu'à chaque fois que je parlais de spiritualité avec les gens que je rencontrais, on me parlait très vite du lien au vivant, au non-humain, et avec une reprise très intense de toute une tradition anthropologique, enfin tradition émergente, disons, autour de Philippe Descola, de Baptiste Morisot, de Natacha Martin, et donc tout un travail un peu sur les façons de se réfléchir en tant qu'espèce humaine au sein des autres espèces et dans son milieu. Et en fait, donc si on creuse un peu, c'est vrai que Descola va reprendre un petit peu dans sa typologie, il va en qualifier une d'animiste. Et c'est vrai qu'il y a, je pense, un engouement d'intérêt pour ce que Descola va appeler d'animisme, qui a relié avec ce qui serait, ce qu'il qualifie de peuple premier, souvent... avec des savoirs ancestraux et une façon en fait de vivre en harmonie avec le vivant et dans une considération en fait où le sacré est tout autour de nous je sais pas à quel point c'est un royaume mais en tout cas pour les enquêter c'est une façon pour eux d'exprimer leur spiritualité qui est souvent décrite comme laïque mais certains se décrivent volontiers comme animistes. Enfin, ça donne des choses parfois assez étonnantes. Et je pense que c'est important de le relever. Mais, je suis curieux d'entendre ce que Cyprien a dit sur ce sujet.
Ok, merci. Alors, donc à la question de quel est l'horizon et quel est le royaume à partir de l'effondrement, je dirais que dans ce que j'ai vu, donc dans la deuxième moitié des années 2010, dans le contexte particulier où j'étais, je pense qu'il y a un premier vecteur de projection dans l'au-delà de l'effondrement, ou peut-être dans le délai avant l'effondrement, mais qui est attirant, c'est le caractère d'effusion ou d'exaltation collective, en tout cas la chaleur communautaire qui peut se constituer autour de l'adhésion aux théories de l'effondrement et qui, je pense, là aussi peut être rattachée a une dimension d'ancrage social. Là, je pense que c'est Paul qui a le plus d'expertise sur ce point, parce que tu fréquentes beaucoup les questionnaires de l'ADEME. Il me semble qu'en tout cas, dans certaines enquêtes par questionnaire sur le rapport des Français à l'environnement, les cadres ressortent davantage comme plus confiants et moins inquiets. Et du coup, pour ceux qui rentrent dans le puits informationnel des théories de l'effondrement, bah, la dissonance avec leur entourage est sans doute plus forte que la rencontre de théories écologiques pessimistes dans des milieux sociaux où, de toute façon, on dit bah, ils nous mènent droit dans le mur, ça va mal finir, etc., etc. Au contraire, là, on est optimiste. Quand on dissonne par rapport à ça, l'expérience de l'isolement par rapport à son milieu, elle est plus forte. Et du coup, le rôle d'un collectif de soutien, de confirmation du bien fondé de ce qu'on pense est plus fort. Et la dimension communautaire, du coup, d'horizontalité des relations entre gens qui partagent leur récit d'être affectés de la même manière, qui complètent leur expertise sur tel ou tel point, qui s'engagent du coup dans une autodidaxie collective et mutualisée. Il y a cette dimension communautaire qui a quelque chose d'utopique et de préfigurateur de l'entraide post-effondrement ou l'entraide à travers l'effondrement et qui a, à mon avis, contribuer à entretenir dans ces milieux la projection vers le fait qu'on allait essayer de faire un effondrement le meilleur possible, humain, un peu à l'image de la communauté qu'on est en train de constituer en encaissant ce choc existentiel et affectif. Donc je pense qu'on peut ajouter aussi une autre dimension de royaume, si vous voulez, post-effondrement. Qui est que la table rase de la destruction des grandes structures politiques, logistiques et autres, de la civilisation thermo-industrielle, selon l'expression consacrée dans les théories de l'effondrement, c'est de rouvrir du possible. Hein, c'est dans une période où le possible politique est pas ouf. Enfin, ça dépend de quel bord on est. Je vais aborder ça juste après. Bah, le fait que tout s'effondre, bah, finalement, c'est cool, quoi. On va pouvoir faire autre chose. Ça rouvre un espace d'inventivité et voire de désirabilité sur les façons de vivre ensemble. Donc là, sur la dimension du possible et sur la place que les théories d'effondrement ont pu y occuper, je renvoie au livre de Laurent Jean-Pierre et Aude Guéguen sur le possible. J'ai plus le titre entier en tête, mais voilà, ils ont abordé ça. Après, je pense là au... enfin, une ambivalence quand même, c'est la place de la préparation pour soi, hein, pas le royaume, mais les micro-royaumes de propriété privée. Dans un questionnaire que j'avais pa fait passer au sein de l'association, une partie de réponse à qu'est-ce que vous faites dans votre vie pour tenir compte des pensées de l'effondrement? Bah, c'était je me suis acheté un pavillon, il y a une certaine surface, on a une source d'eau. On peut encaisser des chocs de pénurie mieux que d'autres, peut-être un peu plus longtemps, voilà, à échelle privée. Après, il y a aussi des échelles intermédiaires de micro-utopies qui ont fleuri pendant un moment, d'écolieux. On va faire des écolieux a beaucoup été une réponse sur quoi faire à partir de l'effondrement. Et certains collectifs ont connu des débuts de réalisation. Là, je pense à enfin, une étude, une recherche dont les premiers résultats vont paraître dans quelques semaines là-dessus. C'est celle de Jérôme Tournadre, qui a enquêté sur une communauté en Dordogne, qui a été une sorte d'espace j'allais dire de recyclage, enfin, en tout cas de brassage de beaucoup de gens qui avaient été très frappés par les théories de l'effondrement. Qui cherchaient à changer de vie, à s'installer à la campagne en collectif. Agricole, comme la situation qui serait la plus adaptée pour ça. Après, je dirais, comme royaume post-effondrement, je pense qu'il ne faut pas oublier
que l'attraction des théories de l'effondrement, elle venait aussi à la faveur de leur neutralisation politique, au moins partielle, du fait que c'était aussi, ça rentrait aussi tout à fait en écho avec des visions du monde et les préoccupations de droite radicale et identitaire, et dans lesquelles le fait que la civilisation thermo-industrielle ajoute sa panne aux tensions civilisationnelles, comme on dit, c'est-à-dire s'ajoute au motif d'espérer pour ces courants une guerre civile ethno-raciale et religieuse, c'est plutôt le royaume pour eux, si vous voulez. De cette façon-là, les théories de l'effondrement ont pu contribuer à l'exaltation et à la confiance en soi à courants de droite radicale, qui espère que la panne de la civilisation thermo-industrielle s'ajoute aux tensions ethno-raciales et qu'on va enfin pouvoir y aller, quoi. Je pense qu'il ne faut pas oublier cette case-là à la question de quel royaume après l'effondrement.
Peut-être une dernière question qui est très liée à celle du royaume, mais pour boucler un peu cette analogie entre millénarisme et théorie de l'effondrement. Une incarnation assez forte du millénarisme historiquement, on en a déjà un peu parlé avant, c'est dans le christianisme primitif, où les premiers chrétiens vivent dans un sentiment d'attente, même d'imminence de la seconde venue du Christ. Et en fait, cette attente, elle porte des fruits, elle crée, en fait, elle les pousse à finalement mettre en place je sais pas si on peut parler d'institutions, mais en tout cas des pratiques collectives de solidarité, en fait, d'advenue assez concrète des prémices du royaume à travers la mise en commun de biens parfois, ou en tout cas des mécanismes de solidarité, de redistribution, de prise en charge des plus faibles, des personnes âgées à une époque où il n'y a pas de système de retraite, des malades, par exemple les basiliades de Saint-Basile le Grand qui préfigurent un peu les hôpitaux. Donc en fait, finalement, on peut dire que ce millénarisme des premiers chrétiens, il a porté des fruits collectifs et presque politiques, dont on mesure encore aujourd'hui la portée. Est-ce que ces discours de l'effondrement, et ces pratiques mises en place par leurs récepteurs peut concrètement donner lieu à des pratiques collectives qui pourraient dessiner une société de partage, de solidarité, de justice.
Un peu d'espérance quand même pour toi, là,
c'est ça.
Côté chrétien. Moi, je pense que j'aurais assez peu de choses à répondre sur cette question, pourtant qui je trouve passionnante, parce que j'ai cette entrée très discursive sur l'effondrement. Et donc, il y a des grandes idées qui sont avancées. Et en même temps, je vois des implications un peu chez la vie des concernés. Mais il y a tout un corpus autour de l'entraide. Il y a un corpus autour aussi des communs et de la protection des communs. Donc, je pense que peut-être quelqu'un comme Gaël Giroux ici peut être connu, élu. Je pense que c'est une de ses contributions aussi au milieu effondriste d'intégrer aussi cette question des communs. Après, moi, c'est vrai que je perçois plutôt la transition vers des actions plus concrètes avec la question de la désobéissance qui se pose dans pas mal de personnes que je rencontre. Et du coup, c'est vrai que la paix n'est pas recherchée de façon inconditionnelle. Et je pense qu'il y a cette idée que les écologistes ont des ennemis et qu'il faut les désigner et bien le savoir. Promouvoir la paix, oui, mais peut-être pas pour à n'importe quel prix, pour n'importe qui. Mais en soi, je pense que les chrétiens des premiers siècles se sont aussi posés dans une opposition à l'Empire et à toute une série de pratiques. Donc, en soi, je pense que le parallèle peut aussi être valable sur ça. Et ouais, je passe la parole à Cyprien parce que je pense qu'il sera plus en mesure de nous dire.
Merci Timothée pour cette belle question sur les fruits de l'attente. Alors, je pense en premier lieu aux enquêtes d'Alexandra Bidet et Solène Sarnowski qui ont travaillé ensemble à partir de bases empiriques qui étaient très proches des miennes, c'est-à-dire des réseaux sociaux consacrés à l'effondrement, en tout cas une écologie très, très pessimiste. Et ce qu'Alexandra, qui est une sociologue pragmatiste du travail à la base, mettait en avant, c'était que le pronostic d'effondrement radicalise le rapport pratique au monde. On a beaucoup dit que c'était des théories abstraites, que ça pouvait que décourager les gens, que ça éloignait de la pratique, que les gens allaient rester enfermés dans leur cerveau à regarder des courbes qui descendent. Mais à partir de l'entrée empirique qu'elle s'était donnée, Bidet et Sarnowski, elles voyaient plutôt que ça radicalisait le rapport pratique au monde, ça radicalisait la question de quoi on dépend pour vivre là quotidiennement. Et du coup, ce qu'elle décrivait à partir de ces forums, c'était des gens qui se posaient les uns aux autres la question de... toi, pour la nourriture, tu fais comment pour résoudre tel ou tel problème en essayant d'en minimiser l'impact ou d'être plus prévoyant par rapport à des crises possibles? Comment tu fais pour faire mieux? Et il y avait toute une sorte de coopération collective, pratique ultra concrète, ancrée dans les détails du quotidien sur comment on fait mieux. Donc là, on peut dire qu'il y a un côté fruit de l'attente, si vous voulez. Après, je pense, au-delà de ça, et pour passer plus en mode épilogue, je ne l'ai pas dit en commençant, mais le milieu auquel je m'étais intéressé, donc en gros de 2015-2016 et la fin des années 2000, je l'ai quitté, je m'en suis désintéressé pour différentes raisons biographiques et aussi liées aux complexités de la présence sur le terrain. Mais j'ai l'impression que ça coïncidait aussi avec une période de perte de vitesse, que l'épisode de la pandémie a montré qu'il pouvait se passer des choses décisives et radicales dans notre monde qui ne découlaient pas des contradictions du système thermo-industriel, mais de quelque chose de contingent comme une chauve-souris ou un laboratoire à Wuhan, on ne sait pas trop, mais... d'imprévisible et qui entraîne un changement brutal à l'échelle planétaire. C'était autre chose que ce à quoi les collapsos nous disaient de nous attendre, même si après ils ont montré, regardez, on avait fait un paragraphe sur les épidémies, bon, quand même. C'était quand même largement à côté de ce qui constituait le cœur de l'espèce de schème d'intelligibilité de la marche du monde qu'ils avaient fourni. Donc, médiatiquement, on a parlé globalement beaucoup d'autres choses ces dernières années, même si l'inquiétude écologique reste présente. Il y a aussi l'essor des penseurs du vivant dont tu as parlé, qui promet des choses autrement, résonne à une autre échelle. Et donc, il y a une sorte de déclassement ou de découragement de la bulle médiatique qui s'était faite quelques années autour des théories de l'effondrement. Et donc quelque part la page a été tournée pour beaucoup de gens, et ce que j'ai croisé plusieurs personnes dans différents milieux, je pense à un tiers-lieu rural ou à d'autres milieux un peu militants écolos dans les années post-2020 qui me disaient très facilement avoir été très marqués par les théories de l'effondrement et puis aussi marqués par le bain de critiques théoriques, scientifiques et politiques qui les avaient accompagnés. Et pour beaucoup de gens, c'est un épisode dans leur vie. C'est quelque chose qui les a amenés à comprendre des trucs, à s'intéresser au monde plus qu'ils ne l'avaient fait auparavant, et avec une exigence d'intelligibilité, mais exigence qui les a menés ailleurs. Et donc, si on cherche des fruits de...
de l'apocalyptisme écologique de ces dernières années, ils sont beaucoup dans le fait qu'ils ont amené plein de gens à s'intéresser à des choses auxquelles ils ne s'intéressaient pas trop jusqu'à présent et à avoir une recherche exigeante d'informations, de compréhension de ce qui se passe. Exigence qui les a amenés ailleurs, au-delà, à s'intéresser à d'autres trucs, à s'investir dans autre chose. Et donc voilà, je pense qu'il y a plein de post-collapso qui sont actifs dans plein de domaines de militantisme, de recherche, de politique, tout en étant passés à autre chose.
Et bien, je pense qu'on peut vous applaudir.
Merci beaucoup.
Alors, est-ce qu'il y a des gens qui sont là pour la première fois au Dorothy ? Ça ne pas tant que ça. Bon, bah, dans tous les cas, bienvenue à toutes et à tous. Donc, pour redire un peu ce qu'on est ici au Dorothy, on est un café associatif qui a été créé par des jeunes chrétiens en 2017 et qui a vocation à pratiquer un accueil le plus inconditionnel possible. On s'inspire d'une militante et journaliste états-unienne qui s'appelait Dorothy Day et qui a essayé d'allier sa foi de convertie catholique et son engagement social et politique. Et donc on propose trois types d'activités dans le café. D'abord des activités sociales avec un café solidaire qui est ouvert tous les après-midi du mardi au samedi. Des activités manuelles, donc des ateliers de menuiserie, plomberie ou électricité à prix libre, et des activités intellectuelles ou culturelles, donc des conférences comme ce soir, des concerts, des expositions et plein d'autres choses. Et donc, pour vous parler un peu de ce cycle de conférences, on avait eu l'idée, enfin Paul surtout avait eu l'idée... après des rencontres l'année dernière à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, où en fait on avait pu constater que chez les militants écologistes, il y avait des questions qui les habitaient, qu'on partageait aussi, notamment la question que nous on appelle l'espérance, mais en fait qui est celle de comment on se projette dans une société plus juste et plus écologique quand on est pris au quotidien dans des conflictualités, des tensions qui sont... omniprésente dans la lutte, dans le militantisme. Et donc, un petit peu de manière sous-jacente, ça pose aussi la question de comment on prend soin les uns des autres dans la lutte, comment on construit des imaginaires qui nous permettent de tenir ensemble et d'avoir un récit commun malgré toutes nos sensibilités et nos enracinements différents. Et donc, le premier volet de ce cycle, était avec la théologienne Hélène Noisette qui nous a parlé de l'espérance chrétienne, en fait cette notion assez traditionnelle dans la pensée chrétienne et de comment elle peut résonner aujourd'hui avec nos questionnements à l'heure des crises écologiques. La deuxième conférence portait sur les rituels où on a reçu la pasteure Caroline Ingrand-Auffay qui a été engagée sur la ZAD de Colsheim en Alsace. Et la militante Evel, qui était engagée sur la ZAD du Carnet et à Extinction Rébellion, où elles ont pu partager leurs conceptions différentes de ce qu'on appelle les rituels au sens large, et qui sont en fait toutes les pratiques collectives qui sont mises en place pour créer un récit commun, pour s'ancrer dans une forme de spiritualité qui peut être finalement... lié à nos traditions monothéistes ou à des spiritualités plus orientales ou pré-chrétiennes, ce qui est le cas de beaucoup de militants écologistes aujourd'hui. Donc voilà, donc c'était deux conférences très, très fécondes et ce soir on a le plaisir de conclure ce cycle avec nos invités que Paul va présenter après une courte introduction.